Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous terminerons aujourd'hui la lecture du livre « Parle-moi d'amour » de Michel Coast aux éditions Ouvrières. Nous avons constaté dans les dernières lectures que le sage, bien qu'il continue de conseiller avec autant de sagesse le jeune qui vient le voir, a des soucis de santé très importants. Et l'infirmière qui s'occupe de lui a même fait des remarques en ce sens au jeune homme, ce que d'ailleurs il a fort peu apprécié. Nous reprenons la lecture en page 241. Voici où nous en sommes. Fallait-il poursuivre l'entretien? Je pensais soudain à l'infirmière et j'eus l'étrange impression qu'elle m'observait de son regard sévère. Je me débarrassais de son regard. Car je voulais savoir, les prêtres étaient appelés à rendre un service essentiel dans l'Église et ils acceptaient par amour de tout quitter pour l'accomplir. Mais les religieux, les religieuses, les moines, à quoi servaient-ils? Je comprenais à la rigueur ceux qui se consacraient à tous les démunis, ceux qui partaient dans le monde, ici ou là, annoncer la bonne nouvelle. Mais les autres, ceux qui s'enfermaient dans les couvents et les cloîtres? Je n'osais plus croire aujourd'hui qu'ils étaient ridicules ou fous, mais alors, pourquoi? Quel secret dans leur vie? Quel mystère dans la vie? Tant pis pour l'infirmière. Je savais que mon ami répondrait et je sentais confusément que j'avais besoin de cette réponse. Non pas pour satisfaire une simple curiosité intellectuelle ou pour répondre au sarcasme de mes amis, mais pour mieux vivre, mon amour. À quoi servait-il? Soupira le sage. Pauvre question d'homme. Hommes accrochés à cette terre qu'ils croient éternelle, mordant le pain en leur bouche affamée et serrant les corps en leurs bras trop avides. Hommes qui veulent arracher le bonheur à l'univers sauvage en perçant ses secrets et maîtrisant ses forces. Hommes qui bâtissent des tours de granit et de fer et prétendent les monter jusqu'aux portes du ciel. Hommes qui se lèvent et travaillent et combattent et dorment pour travailler encore et mourir exténués. Hommes qui font des enfants parce qu'il faut en faire. Enfants qui à leur tour se lèveront, travailleront, combattront et dormiront pour travailler encore et mourront en sueur et leur vie en poussière. Ô homme à la tête dure, dites-moi, savez-vous, à quoi sert la fleur qui naît et meurt cachée sous les fougères? Et la pierre sculptée en haut des cathédrales, et l'étoile allumée aux milliards d'étoiles? À quoi sert le musicien qui joue seul en sa chambre fermée, et le tableau valant une fortune gardé précieusement en son coffre blindé? À quoi sert le bouquet de fleurs qui lentement se fane devant la vieille photographie jaunie? Et la jeune maman immobile et seule, contemplant extasiée son enfant endormi? À quoi sert l'aveugle, puisqu'il ne voit, le sourd, puisqu'il n'entend, le paralysé, puisqu'il ne marche, et le vieillard inconscient, qui n'en finit pas de mourir? Et à quoi sert d'être là, quand on est là pour rien, à côté d'un autre qui est là? Homme, le savez-vous? Le savez-vous encore? Si vous ne le savez pas, si vous ne le savez plus, vous êtes les plus malheureux des hommes, car vous ne saurez jamais à quoi sert la vie et vous ne comprendrez jamais ce que c'est que d'aimer. Seigneur, nous avons besoin, oh oui, nous avons besoin de voir au milieu de nous des hommes et des femmes qui ne servent d'abord à rien, si ce n'est à aimer, pour découvrir et croire enfin que l'amour est tout, qu'il est la sève et qu'il est la vie et la respiration et le sang et la joie de cette immense humanité. Ô Seigneur, regarde-nous, pauvres hommes marchant trop souvent le nez dans la poussière, les pieds salis de terre, les cœurs empêtrés de nos petits bonheurs et l'esprit affolé de nos merveilleuses conquêtes. Envoie-nous de ces hommes et de ces femmes volontaires d'amour au-delà de l'amour. Non pour nous présenter des modèles, il en est parmi nous. Non pour nous distraire de nos tâches, elles sont rudes mais belles. Non pour faire ombre à nos amours, tu les as voulus et tu les as bénis. Mais pour qu'ils soient au milieu de nous, visibles et entretenus, des témoins de l'essentiel, signes et lumières dans l'épaisseur de nos vies. Qu'ils nous rappellent que la cité des hommes est belle, mais qu'un autre royaume au cœur de cette terre grandit mystérieusement, qui n'aura pas de fin, que le bonheur n'est pas dans les seules nourritures terrestres, mais dans la parole écoutée et fidèlement vécue, qu'il nous montre que la liberté suprême n'est pas de faire toujours ce que l'on a envie de faire, mais de savoir, par amour souvent, librement se soumettre. Qu'il nous prouve par leur vie que l'amour n'a pas pour seul langage le langage des corps, car le corps un jour se taira, tandis que le cœur toujours chantera, que la vie enfin peut être donnée autrement qu'en la chair, et que toute existence est féconde à la mesure de l'amour qui l'anime. Heureux ceux qui peuvent voir ces hommes et ces femmes, cœurs accueillant aux peines et joies du monde, communauté de veilleurs, frères rassemblés, qui se laissent aimer et chantent leur merci en contemplant quelqu'un, invisible présence, quelqu'un qui est Dieu et qui s'appelle l'amour. Heureux ceux qui peuvent comprendre que si Dieu est Dieu, il est juste que des volontaires, corps, cœur, esprit, tout entier gardé, tout entier recueilli, soient là pour lui, vis offerte gratuitement, puisqu'il est là, gratuitement pour nous. Je vis que le sage priait. Au bout d'un long moment, il murmura encore. « Oh, mon petit, que ferons-nous demain s'il n'y a plus parmi nous de ces hommes et de ces femmes qui, à l'invitation de l'esprit, deviennent pour nous des signes que l'amour dépasse infiniment l'amour et qu'il est gratuit ?» Puis, il entra à nouveau dans un profond silence. J'étais paisible, profondément heureux, car j'en étais sûr. Aujourd'hui, j'avais compris. Et pour la première fois, je découvrais que je n'avais plus peur. Je me sentais toujours aussi faible, mais je pensais que j'étais enfin prêt à essayer d'aimer. Le sage, lui, était très fatigué. On le serait à moins. Quand il s'exprimait longuement, passionnément, les mots de ses lèvres coulaient rapides comme un torrent. Il s'animait si fort que je regrettais quelquefois d'avoir devant lui levé tous les barrages, devinant combien il devait être épuisant de parler ainsi. Et je regrettais, aujourd'hui plus encore, d'avoir été si avide de ses paroles, mais j'avais soif. Était-ce possible, pensais-je alors, que je ne puisse plus venir près de mon ami pour me désaltérer ? j'entendis du bruit dans le couloir. Quelqu'un venait. C'était elle, déjà ? Je me sentis subitement mal à l'aise, inquiet, comme un enfant pris en défaut. Le sage devina mon trouble, et fidèle complice eut encore la force de sourire en me disant « Qu'importe, c'est la dernière fois !» Et pourtant, soupira-t-il subitement grave, « tant de choses restaient à dire !» Elle entra, légère, lumineuse, comme un rayon de soleil. Elle s'adressa directement au sage. « Comment allez-vous ? Encore un peu fatigué ?» Sa voix chantait. Je n'avais jamais remarqué que sa voix chantait. « Ça va très bien, » dit le sage. « Nous avons parlé, mon ami et moi. »« Je le vois, » dit-elle en me regardant, sans reproche cette fois. Et puis, elle enchaîna rapidement, comme si elle avait hâte de se débarrasser d'une vague inquiétude. « Vous ne m'en voulez pas, surtout ?»« De quoi ? » dis-je. « De la lettre. Je ne savais pas comment m'exprimer. Nous ne nous connaissons pas. » Et je crus discerner dans sa voix un regret qui me plut, et dans mon cœur le même regret qui naissait. « Soyez sans crainte, » répliquai-je aussitôt. « J'ai simplement pensé que j'aurais fait de même si j'avais été à votre place. » Elle me sourit, rassurée. Et moi, je me dis que cette infirmière était beaucoup plus aimable que je ne l'avais cru. J'aurais voulu poursuivre la conversation, mais à nouveau, elle s'adressait au sage. « Je vais préparer les médicaments pour la nuit. Je reviendrai vers 10 heures. Je dormirai là, dans le fauteuil. Ne craignez rien. J'ai le sommeil léger. Je ne manquerai pas une seule des prescriptions du médecin. » C'est ainsi que je compris qu'elle s'apprêtait à veiller le sage toute la nuit. Mais, pensai-je brusquement, pourquoi pas moi ? Ma place est près de mon ami. Je le lui dis. Elle ne répondit rien. Regarda le sage. D'un léger mouvement de tête, il donna son accord. Alors, à mon grand étonnement, « Venez, dit-elle, que je vous montre les médicaments que vous aurez à lui donner. Je viendrai demain matin à l'aube pour faire une piqûre. Et puis, notre ami s'éloignera. On doit venir le chercher très tôt, car le voyage sera long. » Malgré ma profonde tristesse, j'étais heureux de pouvoir passer cette dernière nuit en compagnie de mon ami, car à son regard, j'avais compris que lui aussi était heureux. Je remerciai l'infirmière d'un sourire, et elle me le rendit. Nous aussi, nous étions devenus des amis. Chapitre 39. J'étais installée dans le fauteuil du sage. Je l'avais approché de son lit pour pouvoir observer mon ami plus aisément. Et mon regard caressait sur son visage le sillon de ses rides, délivrant la musique du cœur. Il était beau, ce visage qui, silencieux, chantait. J'écoutais. Il dormait, je veillais, et j'étais fière de veiller. Tout à coup, je pensais à ces hommes et à ces femmes dont nous parlions hier. Veilleurs de par le monde, cœurs qui battent devant Dieu, tandis que d'autres sommeillent. Ils étaient là pour lui, amour pur. Et moi, j'étais là pour mon ami. Une nuit, gratuitement. Je l'aimais. J'eus envie de le lui dire, mais il dormait. C'était mieux. Je m'unis à tous ces veilleurs inconnus, entrant dans ce grand courant d'amour et de vie qui inonde le monde. Et je m'étonnais que l'on puisse ainsi aimer, immobile, sans un geste, et sans que personne ne le sût, dans la nuit. Alors, je priais. Je me répétais les instructions de l'infirmière. Premièrement, deuxièmement, c'était clair. Les médicaments étaient rangés en ordre dans la pièce à côté. Je ne pouvais pas me tromper. L'infirmière, quel âge pouvait-elle avoir? Je cherchais à le préciser, comptant les années d'études, ajoutant 2 années, car elle exerçait depuis 2 ans, m'avait dit le sage. J'en concluais que je devais être un peu plus âgée qu'elle. Ce n'était pas possible. Si peu d'écart entre nous deux? Elle paraissait si jeune. Peut-être était-ce à cause de sa longue chevelure. Ils étaient beaux, ses cheveux, vagues ondulantes sur ses épaules, à chaque mouvement de la tête, mais plus court. Je suis sûre que... Mais ce serait un crime. Je ne lui pardonnerais pas. À moins que ce ne fût à cause de la clarté de ses yeux. Lumière de printemps et non celle de l'été. Je m'en voulais à la pensée d'avoir trouvé ce regard sévère. Où avais-je la tête et le cœur? Comment peut-on se tromper à ce point? Et je recommençais mes calculs pour préciser son âge. Doucement, je touchai la main du sage. Il ouvrit les yeux. « Votre médicament, » dis-je en le lui présentant, « il est l'heure. » Il but sans dire un mot, puis reposa sa tête sur l'oreiller. Je crus qu'il allait se rendormir, mais il se tourna légèrement vers moi. « Il faut que je te dise, non, reposez-vous, vous ne devez pas vous fatiguer. Nous avons si peu de temps, nous avons déjà beaucoup parlé. » De quelques aspects seulement, de cet amour unique qui anime toute la vie des hommes. Or, nul cœur ne grandit sans que grandissent la tête, les bras et les pieds, et l'homme ne se développe pleinement que si ses frères se développent avec lui. L'humanité entière ne croit que liée à l'univers, matière et vie maîtrisée, ordonnée. Et l'histoire piétine si des hommes libres ne connaissent et reconnaissent. Celui qui chemine avec eux les libère de ce qui les empêcherait d'aimer et leur offre sa vie pour qu'ils aiment avec lui. Tout se tient, mais il n'est qu'une route. Elle va de l'amour à l'amour, avec celui qui est amour. À chacun d'être présent, aimant. Mais présent où, osais-je dire encore? J'ai moi-même hésité et trop longtemps rêvé. Mes frères m'attendaient, peuple immense qui marche, et chacun se tenant à sa place. Et je cherchais la mienne, me croyant trop souvent inutile. Mais je l'ai trouvé à mes pieds, espace de ma vie. Là où tu es, tu trouveras. Regarde, à travers l'événement, Dieu toujours fait signe. Plus tard, dis-je, quand vous reviendrez, nous parlerons encore. Il ne répondit rien. Dieu fait signe à travers l'événement, c'est vrai. Il m'avait fait signe et parlé à travers cette étrange et merveilleuse rencontre du sage. Mais ce qui m'était arrivé était-il si extraordinaire? N'est-ce pas la destinée de chaque homme de rencontrer des frères qui pour eux sont paroles et de vivre les événements qui sont signes? Mais il faut écouter, regardez. » Et laissez en son cœur naître cette parole dans la parole et cette lumière sur la route qui fait voir. Je ne verrai peut-être plus mon ami et j'étais infiniment triste, mais je réalisais tout à coup que j'entendrai toujours la voix du sage, car c'est une autre voix que j'entendais à travers la sienne. Et celle-ci, si j'étais fidèle, jamais pour moi ne se tairait. Je pensais alors à l'infirmière. Avait-elle quelque chose à me dire, elle aussi ? C'était évident, mais nous ne nous connaissions pas. Elle paraissait le regretter. Je ne l'avais pas écoutée, je ne l'avais pas regardée, ou si peu. Pourquoi lui avais-je refusé ce regard qui invite et permet à l'autre de sortir de chez soi ? Qu'aurait dit son cœur à travers ces mots ? Certains, j'en étais sûre, attendaient pour être dit que quelqu'un écouta. Je regrettais vivement mon manque d'attention. « À quoi penses-tu ? » dit le sage. Je sursautais. Je ne m'étais pas aperçu que mon ami était éveillé et qu'il m'observait attentivement. Gêné, je rougis et rougis plus encore de me sentir rougir. Ce n'était pas mon habitude. Heureusement, mon visage n'était que faiblement éclairé. Je me trouvais d'autant plus ridicule que je n'osais répondre. Après un long silence, c'est lui qui murmura. « Elle est belle, n'est-ce pas ?» Et cette fois, je dis « Oui !» et lui ferma les yeux sur son sourire, en ajoutant encore « Mais elle est belle également en son cœur, et toi aussi tu es beau en ton cœur. » Puis, il détourna la tête, et je compris qu'il ne dirait plus rien. Je m'étais assoupi, la conscience tranquille, car j'avais respecté scrupuleusement les consignes du médecin. Le sage était éveillé. « Vous ne dormez pas ? » dis-je. « Vous n'êtes pas raisonnable. »« J'ai dormi, mais il ne faut pas toujours dormir. »« Écoute, il faut que je te demande pardon. Ne proteste pas, je t'en prie. Laisse-moi achever. » J'ai réfléchi et j'ai pensé que je ne t'avais pas assez dit que l'amour était joie. Ainsi, Dieu l'a voulu. Lorsque deux êtres se rencontrent et unissent leur cœur, leur corps et toute leur vie, en eux naît un immense bonheur que nulle difficulté ne peut éteindre si leur amour est vrai. Aimer authentiquement, c'est entrer dans la joie infinie de Dieu. Pardonne-moi, mais comprends-moi. J'ai rencontré tant et tant de jeunes qui s'imaginaient que l'amour est facile et que j'ai retrouvé à terre pleurant ou maudissant les vestiges de leurs rêves en miettes. J'ai voulu te montrer que l'amour était beau, mais qu'il était difficile. Et puis, tu connais ma dure expérience. L'amour pour moi, si souvent, fut souffrance. « Je comprends, dis-je. C'est à moi de demander pardon. J'ai dû vous faire souffrir en vous faisant parler d'amour. Je ne regrette rien. Vous avez beaucoup souffert, mais vous avez beaucoup aimé. Pas assez. On n'aime jamais assez. Vous êtes inquiet ? Non, heureux et en paix, parce que je sais que je suis aimée par celui qui est amour. » L'heure approchait où je devrais me séparer du sage. Je ne le verrai plus. Nous ne parlerons plus. Certes, j'irai boire à la source de ses paroles, le livre. Mais j'avais besoin d'un visage pour aimer et d'une main qui se tend et qui presse la mienne pour savoir que j'étais aimée. Et puis, j'aurais tant voulu que mon amie connaisse celle qui partagerait ma vie. Elle existait, m'avait-il dit. Oh, mon amour inconnu! Et brusquement, du fond de moi, jaillit une question que je ne pus retenir. Je me penchai vers le sage. Il était toujours éveillé. Je lui dis à voix basse, « Dieu ne choisit pas pour nous notre compagne, m'avez-vous dit, mais connaît-il d'avance celle que nous choisirons ?»« Dieu est père, mon petit. Il voit tous ses enfants. Pourquoi ne souhaiterait-il pas que celui-ci et celle-là se rencontrent et se reconnaissent ?» Quelquefois, les pères de la terre et ceux qui aiment rêvent ainsi, mais peuvent se tromper. Lui ne se trompe jamais, car son amour est parfait. Il sait que là serait leur bonheur. De temps en temps, il fait signe discrètement à travers les personnes, les événements. Mais chacun reste libre. Si les enfants sont attentifs et fidèles, leur désir rencontre le désir de Dieu. Alors éclate la joie, leur joie dans sa joie. C'est beau! J'avais donné au sage son dernier médicament. Mon ami maintenant se levait. Le temps était clair et je vis que se préparait un matin de lumière. Je regardais l'heure. C'était la dernière. Elle s'écoulait lentement, très lentement. Pourquoi cette heure-là me paraissait-elle beaucoup plus longue que les précédentes? Était-ce la fatigue? Non, j'étais éveillée, l'esprit clair et vaguement heureux. Je me reprochais cette joie. Nous allions nous séparer, mon ami et moi. Comment ce sentiment pouvait-il alors trouver une place en mon cœur? Je n'étais pas triste, mais impatient. J'attendais, mais... J'attendais quoi? Tout à coup, je compris que j'attendais quelqu'un. Elle! Elle avait dit qu'elle viendrait à l'aube. Je l'attendais! En mon cœur, cette évidence longuement retenue éclatait enfin, entraînant avec elle une joie intense que je ne reconnus pas, car jamais je ne l'avais encore reconnue. Je faillis réveiller le sage pour lui révéler mon secret, mais il dormait profondément. Je regardais la pièce maintenant, doucement éclairée par les premières lueurs du jour. Rien ne bougeait, le silence demeurait. Je m'étonnais qu'autour de moi, rien ne fût changé. Alors, en moi, une sourde inquiétude s'éleva, nuage sur ma joie toute neuve. N'était-ce pas un rêve? Un de ces mirages de mes désirs dont tant de fois j'avais été victime. Je fermais les yeux pour mieux la voir à l'intérieur. Je la regardais. Oui, elle était belle et je constatais heureux que mon regard délicatement posé sur elle ne ternissait pas son éclat. Je cherchais d'autres preuves de l'authenticité de mon sentiment. J'imaginais un instant qu'on lui voulait du mal. Aussitôt, je bondis. Jamais je ne le supporterai. Je ferai tout pour qu'elle soit heureuse. Elle le mérite. Et de le penser me rassura. Mais je ne la connaissais pas. Tout cela était fou de ma part. Et pourtant, j'étais sûre. Je regardais le sage, mais il dormait toujours. J'attendais, je pensais, je lui dirais que peut-être nous pourrions nous connaître, que si elle voulait, nous sortirions ensemble, que... Mais à quoi bon rêver? Je n'oserais pas parler. Moi, d'habitude si hardie devant les filles, je me découvrais timide comme un enfant. Tout à coup, le bruit dans le couloir, le même qu'hier, je reconnaissais son pas. C'était elle, j'en étais sûre. Elle ouvrit doucement la porte, mit un doigt devant sa bouche pour me faire signe de ne pas parler. Elle ne voulait pas réveiller le sage, mais il l'entendit et dit doucement « C'est l'heure, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-elle. Puis, se tournant vers moi, elle ajouta gentiment « Il faut maintenant prendre congé. Je dois faire une piqûre et préparer notre ami. » Je ne me décidais pas. Cloué sur place, je regardais le sage. Lui aussi nous regardait, l'un après l'autre, en souriant. Il paraissait heureux. « Comme c'est beau » murmura-t-il. « Un jour nouveau qui se lève, un jour tout neuf entre nos mains. » Puis il me prit le bras et ajouta « Va, mon petit, sors quelques instants, ce ne sera pas long, mais reviens la chercher. Les rues sont encore désertes, tu ne vas pas la laisser partir toute seule. » Son sourire malicieux cachait difficilement son bonheur de me jouer un bon tour. Et moi, gêné mais heureux, je compris qu'il avait entendu chanter mon cœur avant que je ne l'entende. Et la joie revint en moi, y chassant les nuages. Mais elle, j'osais enfin la regarder. Je voulais parler. Je bafouillais, mais pas un mot ne sortit de mes lèvres. Elle ne fut pas plus heureuse dans sa tentative, mais elle avait à sa disposition les mots de son sourire. Et son sourire me dit « oui ». Quand je revins, le sage était prêt. Allongé sur son lit, il attendait, calme, paisible. Je ne sais pourquoi, je remarquai aussitôt la petite valise posée sur le fauteuil. Une si petite valise, pensais-je, pour un si long voyage. Il vit que je la regardais. « Il n'y a pas besoin de beaucoup de bagages, » dit-il, « pour partir dans la vie. Il suffit d'aimer. » Puis, à nouveau, il nous regarda longuement tous les deux, affectueusement. Après un long silence, il dit d'une voix ferme, « Allez, mes enfants, il est temps de partir !» Visiblement, il voulait hâter les adieux. Elle s'approcha la première et l'embrassa. « Sois heureuse, » dit-il simplement. Je me penchai pour l'embrasser à mon tour. « Merci, père, vous m'avez donné la vie. Adieu, mon enfant chéri !» Et il pleurait en souriant. Et nous aussi. Je restais encore une fois, immobile devant lui, ne pouvant détacher mon regard de ce visage aimé. C'est alors qu'elle vint vers moi, me tendit la main et prit la mienne avant que je ne la lui donne. Et ma main dans la sienne, et tes oiseaux tremblants. « Viens, » dit-elle, elle m'entraîna. Sur le pas de la porte, nous regardâmes une dernière fois notre ami. Il avait les yeux clos, mais ses lèvres remuées, et nous l'entendîmes distinctement redire une fois encore « Il n'y a pas besoin de beaucoup de bagages pour partir dans la vie. Il suffit d'aimer. » Dehors, au bout de la rue, le soleil se levait. Et nous allons conclure en quelque sorte cette lecture en reprenant la quatrième de couverture pour faire un résumé de ce que nous avons entendu. Parle-moi d'amour, une ambiance mystérieuse et prenante, un itinéraire de jeunes attachants, de magnifiques textes poétiques pouvant être détachés de leur contexte pour être lus dans une veillée ou une célébration, font de cet ouvrage original une œuvre remarquable. Elle fera réfléchir beaucoup de jeunes et d'adultes et leur donnera ou redonnera le goût d'aimer. Dans notre monde moderne, l'amour est banalisé, dévalué, chosifié. Abîmer l'amour, c'est à long terme détruire la vie. Il était urgent de redonner à l'amour sa vraie place au cœur de l'homme et du monde et de redécouvrir sa dimension infinie. Repoétiser l'amour et lui rendre son mystère. Michel Coast s'y emploie magnifiquement. Comment ? Il s'en explique lui-même dans son introduction. Ce livre n'est pas un exposé systématique, encore moins un livre de recettes pour réussir un amour. Il n'est pas non plus une histoire présentée comme un exemple. C'est un recueil de textes, de réflexions et de méditations sur l'amour. Certes, cette méditation est habillée d'une histoire. Un jeune visite régulièrement un sage qui, lentement, le guide dans sa découverte de l'amour. Mais cette histoire n'est qu'un support artificiel. Une occasion pour introduire à la méditation. Histoire volontairement floue, où s'expriment deux personnages principaux, au visage à peine esquissé, afin de laisser à l'imagination des lecteurs un espace de liberté suffisant pour leur permettre de retrouver, au-delà des circonstances particulières, leur propre recherche de cœur. Ainsi, se termine le livre de Michel Coast aux éditions ouvrières et il a pour titre « Parle-moi d'amour ». Comme vous le savez, chers auditeurs, vous pouvez l'écouter en direct sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM ou DAB+, et mardi et mercredi à 21h, et rediffusion les lundis et mardis à 6h. Vous pouvez aussi les retrouver dans les podcasts sur le site de la radio. www.radioallianceplus.fr. Lors de notre prochaine émission, Je lis pour vous, nous ouvrirons ensemble un nouveau livre. À bientôt, chers auditeurs.